CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende, le podcast. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et l'auteur de livres incontournables Entrepreneur de légende. Bonsoir Sylvain.
Salut Mickaël.
Alors Sylvain, l'entrepreneuse du jour est dans l'univers de la mode. Et elle a construit sa réussite à la force du poignet, sans recevoir l'aide de personne, contrairement à d'autres. Elle a gravi un à un les échelons pour bâtir la plus ancienne maison de couture française encore en activité. Découvrons ensemble l'histoire de Jeanne Lanvin.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Jeanne Lanvin est née en 1867 à Paris.
Oui, elle naît dans une famille très modeste. C'est l'aînée d'une famille de 11 enfants. Donc, c'est un niveau de vie très, très, très pauvre, mais en fait, assez similaire à celui de beaucoup de Français à l'époque. Donc, c'est une enfance difficile. Elle va très peu à l'école. Elle passe le gros de son enfance à s'occuper de ses petits frères et sœurs. Ce qui explique qu'en fait, toute sa vie, elle saura lire, mais elle aura toujours un peu des difficultés à l'écrit. Donc, c'est une enfance sur laquelle on sait en fait assez peu de choses, parce que plus tard, elle s'est peu épanchée sur cette période de sa vie qui était clairement pas très joyeuse.
De toute façon, ce sera un de ses traits de personnalité. Elle sera discrète toute sa vie, Jeanne Lanvin.
Oui, discrète, réservée. Comme tu l'as dit, une grosse travailleuse. Je ne sais même pas si elle a pris une fois des vacances dans sa vie. Une taiseuse et une besogneuse, disons.
Donc du coup, une enfance assez difficile, une scolarité difficile, mais elle commence quand même à construire son caractère de travailleuse.
Oui, mais elle doit s'occuper de ses 10 petits frères et sœurs. Donc déjà, dès l'enfance, elle a les responsabilités presque d'une mère de famille. Et dès 13 ans, elle est placée dans une maison de couture à Paris. Donc
un apprenti.
En apprenti. Alors au début, en jeune à tout faire, je sais pas comment dire. Hein, elle fait le ménage, elle emmène les colis à droite à gauche chez les clientes. Et d'ailleurs, on voit son caractère dès le début, parce que quand elle doit emmener un colis, elle garde le prix du ticket d'omnibus dans sa poche pour commencer à épargner. Elle a passé toute sa vie, on va le voir, à épargner sou à sou pour monter sa maison de couture. Donc elle met un premier pied, on va dire, dans le monde de la mode et de la couture, mais au début avec des tâches complètement subalternes qu'elle aurait pu faire en fait presque partout ailleurs.
Et donc ses parents la placent en apprenti dans cette maison de couture pour évidemment avoir un nouveau salaire, et t'allais le dire, je t'ai coupé, c'était rue du Faubourg Saint-Honoré.
Voilà, donc c'est une maison de couture dans le plein centre de Paris, donc une maison haut de gamme ou de luxe. Cette rue du Faubourg Saint-Honoré va vraiment être l'emblème de Jeanne Lanvin. Elle va presque toujours travailler dans cette rue-là, d'abord comme salariée et ensuite avec sa maison de couture. Et la maison Lanvin est un petit peu associée au Faubourg Saint-Honoré, un peu comme Chanel et la rue Cambon. Il y a une adéquation entre le lieu et la marque.
Et donc son caractère continue à s'affirmer, c'est quand même une travailleuse acharnée, et du coup elle se rend rapidement indispensable.
Oui, alors elle monte les échelons petit à petit, parce que elle passe sa vie à travailler, elle est toujours disponible, elle est efficace, donc elle fait des tâches, on va dire, avec un peu plus de valeur ajoutée, on commence à lui confier quelques petites missions, elle commence à voir différents aspects du métier, donc à comprendre un petit peu plus comment fonctionne une maison de couture, donc c'est vraiment une ascension par le bas, quoi. Elle fait partie de ces gens qui ont commencé absolument tout en bas, et qui à force de travail, de persévérance, d'intelligence, on gravit un à un les échelons dans leur profession.
Et dès le début, elle commence à économiser rigoureusement.
Oui, ce sera vraiment son trait de caractère. Hein. Plus tard, quand elle aura son entreprise, elle ne fera pas appel aux banques ou aux actionnaires extérieurs. Elle autofinancera tout avec un souci de l'épargne qui est presque maladif en fait. Hein. Elle s'accorde aucun congé, aucun loisir. Et elle fait que de travailler et épargner pour essayer de s'en sortir en fait.
Au bout de 3 ans, elle change de maison de couture.
Oui, alors elle va changer 2 fois de maison de couture avant de monter son entreprise. Donc elle a des opportunités un petit peu plus intéressantes. Alors toujours dans le même quartier, le premier, toujours rue du Faubourg Saint-Honoré, après un peu plus loin, mais enfin on reste toujours dans ce quartier-là de Paris. Et donc elle commence à être un petit peu plus à l'aise dans le métier, à se faire un petit peu un nom, disons. Elle a une meilleure opportunité. dans une autre maison une première fois, puis dans une deuxième maison. Et donc, elle gravit un petit peu les échelons. Elle n'est plus à faire le ménage et à livrer les colis. Et ce qui lui permet aussi de diversifier ses expériences et de vraiment apprendre le fonctionnement de l'ensemble d'une maison de couture.
Et en parallèle, elle crée un peu sa propre activité.
Voilà, alors, elle est salariée, hein, et le soir, ou sur ses maigre temps de congé. Elle commence dans sa chambre de bonne, elle habite un logement très, très modeste dans le centre de Paris. Elle commence à coudre des chapeaux, des poupées, des premiers vêtements qu'elle vend donc à différents clients, puisque bon, elle est dans ce milieu-là, donc elle connaît les débouchés potentiels. Et donc, en plus de son travail salarié avec des horaires à rallonge, elle fait en plus cette activité au début de manière complètement artisanale. Et puis voilà, petit à petit, cette activité va grossir et elle va devenir vraiment une entrepreneuse à part entière.
Tout ça, c'est évidemment pour économiser. Et en parallèle, dans ce nouvel employeur qu'elle aura eu, elle va se faire remarquer par une cliente.
Oui, alors il y a même deux clientes. Une première cliente espagnole qui va lui demander de venir à Madrid pour lui faire des robes sur mesure, pour être vraiment avec elle.
Elle travaille directement chez la cliente.
Voilà, pour avoir un peu sa couturière personnelle.
Ah, c'est bien ça.
Alors c'est bien, mais la première expérience à Madrid se passe très mal. Elle est traitée pratiquement comme une esclave, en fait, pratiquement séquestrée. Enfin, c'est absolument affreux. Donc c'est une très mauvaise première expérience, mais elle se décourage pas, elle a pas un caractère à se laisser abattre pour si peu. Elle va refaire un peu ce même type de mission à Barcelone avec une autre cliente, une riche.
Elle y retourne
un peu plus tard avec une autre cliente. Et là, ça se passe très bien. Cette cliente là, elle crée vraiment des liens presque d'amitié, on peut dire. Et elle gagne pas mal d'argent. C'est un poste très bien payé et on se rappelle qu'elle économise chaque sou de manière presque maladive. Et donc c'est une opportunité pour elle d'avoir un petit pécule pour vraiment lancer son entreprise, pour que son activité de couturière, sa maison qu'elle est en train de créer, puisse vraiment prendre son envol.
Et ça n'y manque pas, puisque à son retour à Paris, elle décide de se lancer à son compte.
Voilà, donc cette activité qu'elle avait de manière, on va dire, totalement artisanale en parallèle de son métier de salarié, elle s'y consacre donc à 100%, donc elle démissionne de ses précédents emplois. Donc au début, c'est vraiment une réussite du bas vers le haut, quoi. Elle est partie tout en bas, à être un peu dans sa chambre de bonne, donc elle habite toujours dans ces quartiers centraux de Paris où l'immobilier déjà à l'époque était très cher. Donc elle a un espace tout à fait exigu, elle coud des chapeaux, des poupées, des premières robes. Bon, elle s'associe un peu avec une collègue, mais ça marche pas parce qu'elle a un caractère
solitaire.
Voilà, elle a un caractère solitaire et bien trempé. Mais bon, petit à petit, elle commence à grandir un petit peu. Elle déménage dans un autre logement un peu plus grand pour avoir un peu plus d'espace. Puis dans un vrai atelier, disons. Et elle commence à avoir ses premiers employés. Donc assez rapidement, parce que bon, elle est très travailleuse, très compétente. Elle connaît très bien ce milieu. Elle parvient à créer sa propre maison de
couture. La maison Lanvin.
Voilà, la maison Lanvin, et plus seulement un petit atelier dans un coin.
Donc là, on est quasiment en 1890, et tu l'as dit, la maison Lanvin est créée, elle est lancée, et la croissance, elle est soutenue.
Oui, alors c'est vraiment dès le début, en fait, hein, il y a une croissance régulière et assez rapide, parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement son milieu. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y travaille et qu'elle a, avec ses différents emplois dans les différentes maisons de couture, elle a vraiment pu voir toutes les facettes du métier. Donc elle maîtrise aussi bien la confection, la vente, la gestion du personnel, les approvisionnements, etc. Et la clientèle est au rendez-vous. Et assez rapidement, ça devient... Alors, pas la plus grosse maison de Paris, mais enfin une maison qui compte sur la place de Paris avec des clients internationaux, argentins notamment, puisque l'Argentine était à l'époque un pays très prospère. Et elle s'installe vraiment en plein Paris, donc toujours 22 rue du Faubourg Saint-Honoré, qui est un peu l'adresse, disons, emblématique de la maison.
Ouais, c'est à ce moment-là qu'elle s'installe là-bas.
Voilà, elle s'installe là-bas et ça deviendra l'adresse iconique. Et donc au début, elle achète un petit local et puis après, elle achète un premier étage, puis tout l'immeuble, puis l'immeuble d'à côté. Et donc c'est vraiment une croissance qui est assez rapide étant donné, la modestie de son entreprise au départ.
Mais en parallèle, sa vie privée à elle, c'est pas la croissance de ouf.
Oui, alors c'est quelqu'un qui consacre toute sa vie au travail et à sa réussite professionnelle. Et on peut dire, alors, on connaît pas très bien les détails de sa vie privée, mais on peut dire qu'elle délaisse un petit peu sa vie privée, sentimentale, familiale et autres. Donc elle se marie une première fois. Quelqu'un visiblement d'origine italienne, qui serait riche et noble, mais qui... On ne sait pas trop, il a peut-être plutôt flairé un bon parti. C'est certainement pas une grande passion sentimentale. D'ailleurs, ils divorceront assez vite. Mais Jeanne Lanvin a une fille. Et sa fille sera très importante pour la maison. Alors déjà pour Jeanne Lanvin, parce qu'elle aura vraiment une passion dévorante pour sa fille. Sa fille sera tout à ses yeux. Cet intérêt qu'elle porte à sa fille, en fait, va déborder sur l'activité professionnelle. Notamment parce que elle place sa fille dans les meilleures écoles des plus beaux quartiers.
C'est la petite Marguerite, sa fille.
Voilà, c'est la petite Marguerite qui est une enfant choyée, une enfant gâtée. Et Jeanne lui fait des robes un peu de princesse, un peu exubérante. Et en fait, les gens dans la rue, dans les beaux quartiers qu'elle fréquente, se disent « Mais ces robes de ces petites filles, elles sont formidables. » Et en fait, Marguerite, donc la fille, devient un peu, l'égérie et le mannequin de sa mère, en fait.
C'est son modèle.
Son modèle, voilà. Il y a une relation extrêmement, extrêmement puissante, extrêmement fusionnelle. Et là, la fille devient le mannequin, on va dire, emblématique de la maison Lanvin. Et plus tard, hein, quand Lanvin lancera ses premiers parfums, les Arpèges notamment, le logo, c'est une mère qui danse avec sa fille, qui deviendra d'ailleurs le logo de la maison Lanvin. Donc on voit vraiment que sa fille, c'est vraiment toute sa vie, et ça imprègne même son activité d'entrepreneuse.
Tu l'as dit, elle se remarie derrière, en 1907, un nouveau mariage.
Oui, un nouveau mariage. Là, non plus, on n'a pas trop de détails, mais on se doute que Jeanne Lanvin n'a pas eu une vie de famille, une vie sentimentale particulièrement époustouflante. Je ne pense pas qu'ils sont très souvent partis en vacances en amoureux ou en week-end au bord de la mer. Sa vie, c'est son métier et sa fille.
Et sa
voilà,
fille.
Point final. Et c'est des mariages qui sont peut-être plus basés sur le fait qu'une dame qui veut se montrer comme un peu bourgeoise ayant réussi doit être mariée. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a tout délaissé pour son travail et sa fille.
Et elle a bien fait de tout délaisser, puisque la maison Lanvin, elle continue de croître. Tu l'as dit, elle commence à bien se faire connaître à l'étranger, notamment en Argentine, et elle se fait une place dans la haute société française.
Oui, donc la maison Lanvin devient une maison en vue à Paris, et même des clients fortunés étrangers. Ça devient une maison, aujourd'hui on dirait une grosse PME, un peu plus de 100 salariés. Donc il y a la Première Guerre mondiale qui arrive. Donc il y a un coup d'arrêt pour l'activité, puisque évidemment les gens... Il faut se rappeler qu'en 4 ans, le PIB français s'est effondré de 25%. Hein, donc c'est énorme. Hein. Pendant le Covid, c'était 7%. Donc c'est un choc économique beaucoup plus fort. Et donc l'activité ralentit, mais Lanvin a un avantage qui est qu'elle emploie beaucoup de femmes. Y compris à des postes un peu de direction dans les autres maisons. Et alors il y a les femmes petites mains couturières, et dès qu'on est sur le management, c'est des hommes. Et donc vu que les hommes sont appelés au front et pas les femmes, eh bien en fait la maison Lanvin souffre moins de l'hémorragie de personnel. Et donc en fait, relativement aux autres maisons, la maison Lanvin sort de la guerre presque plus renforcée par rapport à la concurrence. Donc en fait, la Première Guerre mondiale, d'une certaine façon, c'est une opportunité pour Lanvin.
D'autant plus qu'elle a suivi l'exemple de Chanel et elle a ouvert des boutiques dans d'autres villes où les bourgeois avaient déménagé pendant la guerre.
Oui, donc au début de la guerre, hein, les armées allemandes foncent sur Paris. Alors elles seront arrêtées, la célèbre bataille de la Marne. Mais beaucoup de riches parisiens ont peur que Paris soit envahi ou bombardé et donc partent, alors certains à Deauville ou à Biarritz, des villes huppées au bord de la mer. Et d'ailleurs, comme tu le dis, hein, Chanel, le début de la maison Chanel, c'est à Deauville pendant cette période-là. Quand tous les riches parisiens sont à Deauville, elle est à Deauville à ce moment-là avec sa petite boutique. Et donc oui, Lanvin, qui avait une présence exclusivement parisienne au début, ouvre des premières boutiques donc à Deauville et à Biarritz pour profiter de cette clientèle qui en fait est partie dans ces villes-là.
Avant de faire un point sur le futur, il faut savoir que Jeanne Lanvin, elle développe ses goûts, sa personnalité, tout ça en autodidacte. Elle n'a pas suivi de cours, ni de dessin, ni de mode, ni d'art. Elle fait tout en autodidacte.
Oui, c'est quelqu'un qui a tout appris sur le tas, en fait. Hein. On l'a dit, elle a commencé à 13 ans à faire le ménage, et puis petit à petit, elle a appris le métier vraiment en autodidacte. Elle ne sait pas dessiner. On a toujours l'image du couturier qui fait des petits croquis à droite à gauche. Elle ne sait pas faire ça. Et elle a une idée de vêtements, de robes en tête. Elle le décrit à un dessinateur qui lui dessine. Et puis après, ils font des retouches comme ça. Mais elle a une façon de travailler qui n'est peut-être pas très habituelle. Et en tout cas, peut-être pas celle qu'on a, ou le stéréotype qu'on a en tête du couturier.
Et pourtant, rapidement, elle arrivera à créer son propre style. Et les années folles, c'est un peu la prospérité pour la maison Lanvin.
Oui, les années folles, c'est une année, comme leur nom l'indique, un petit peu d'exubérance, où après 4 années de guerre, les gens ont envie d'oublier, de se faire plaisir, ceux qui ont les moyens, toujours. C'est une période de prospérité pour la maison Lanvin et pour, on va dire, le luxe en général. Hein, c'est aussi la grande période de Chanel. D'ailleurs, les styles Lanvin et Chanel sont assez similaires, des styles assez purs, assez épurés. Et donc,
c'est un peu garçonne.
Un peu garçonne, c'est l'époque de la garçonne, hein, ce célèbre livre qui met en avant la femme, disons, un peu moderne, qui se coupe les cheveux, qui fume, qui porte des pantalons, etc. Donc c'est une période de prospérité pour la maison Lanvin. Elle habille les plus grandes stars, les têtes couronnées, Mary Pickford par exemple, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui était vraiment une icône d'Hollywood à cette époque-là. Elle habille la première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Donc elle est vraiment une des couturières les plus en vue. Alors peut-être un peu moins célèbre et moins en vue que Chanel, mais disons que c'est un peu la numéro 2 sur la place parisienne.
Et en parallèle, elle fait différentes diversifications. Tu en as parlé tout à l'heure, du parfum notamment.
Oui, alors le parfum. Donc sur le parfum, elle est un peu la suiveuse de Chanel, puisque Arpège sort 2 ans après le numéro 5. Donc elle a vu que ça marchait très bien. Elle se place un peu dans ce sillon-là. Elle essaie de faire un peu tout ce qui est décoration d'intérieur, ameublement, etc. Bon, ça marche plus ou moins bien. Elle fait aussi des vêtements, des lignes plus sportives, plus pour hommes, où là elle est plus précurseuse et où ça marche mieux, disons, en tout cas mieux que la division ameublement ou décoration d'intérieur. Donc oui, elle essaie de se diversifier avec un cœur de métier qui reste bien sûr la mode féminine.
En 1929, il arrive une crise qu'on connaît encore.
Voilà, alors la crise de 29, évidemment, qui met un coup d'arrêt à cette période de prospérité ou d'exubérance. La plupart, en tout cas, des grandes maisons de couture sont touchées, et Lanvin aussi. Alors, Lanvin, c'est une maison, on en a un peu parlé, mais qui s'est développée uniquement par autofinancement, qui n'a pas fait appel à des actionnaires extérieurs parce qu'elle voulait garder le contrôle de sa maison, et pas aux banques non plus. Hein. Donc, ce qui fait qu'elle a un endettement nul, en fait, ou pratiquement nul. Donc, elle arrive à absorber le choc, mais bien sûr, c'est un coup d'arrêt, c'est une période difficile pour la maison, qui parvient néanmoins à survivre. Après,
grâce au fait qu'elle était autofinancée, sinon elle aurait peut-être périclité.
Sinon, ça aurait été plus difficile, oui, parce que le fait de ne pas avoir de dettes ou extrêmement peu de dettes, dans les périodes difficiles, ça fait que vous avez un bilan quand même beaucoup plus solide. Et donc, cette stratégie d'autofinancement et d'indépendance, du coup, devient une force, encore une fois, relativement à d'autres maisons qui étaient beaucoup plus endettées.
Donc, elle survit à la crise de 1929 et elle continue de travailler, même après 60 ans.
Oui, donc Jeanne Lanvin n'est plus toute jeune, hein, il faut le dire, elle commence à avoir plus de 60 ans. Pour elle, la retraite, ça n'existe pas. Le concept même, je pense qu'elle n'y avait jamais pensé.
Elle a commencé à 13 ans. Donc.
Oui, et puis même avant, elle était presque, on peut dire, femme au foyer. Donc en fait, elle a toujours travaillé toute sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui ne conçoit pas sa vie en dehors du travail. Donc elle continue à gérer sa maison donc pendant la deuxième épreuve, qui est la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Donc là, bien sûr, avec une activité très réduite.
Elle continue pendant la guerre.
Elle continue pendant la guerre. Alors Chanel avait fermé, d'autres, certains avaient fermé, elle pas. Elle a une stratégie, une attitude plutôt d'être, ni résistant ni collabo. En gros, elle veut
neutre.
Neutre. Son obsession, qui a toujours été son unique obsession, c'est sa maison de couture. La politique ne l'intéresse en fait pas beaucoup. Et donc, elle continue à faire tourner sa maison pendant la guerre, alors bien sûr au ralenti. Et donc, la maison Lanvin survit à cette deuxième épreuve. Mais comme tu le disais, Michael, Jeanne Lanvin commence à être âgée et elle décède juste après la guerre, en 1946.
Et elle n'aura pas été inquiétée, du coup, après la guerre, parce qu'elle n'a pas collaboré.
Non, elle n'a pas été inquiétée après la guerre. Donc, elle n'était pas résistante, mais pas collaborateur ou collaboratrice, je ne sais pas comment on dit pour une femme non plus, à la différence par exemple de Chanel, hein, qui a dû partir en Suisse après la guerre parce que était un petit peu compromise avec, avec l'occupant. Donc la maison Lanvin n'a pas, disons, l'image de Jeanne Lanvin et de sa maison n'a pas souffert de l'occupation. Et ensuite, donc, suite au décès donc, de Jeanne Lanvin en 1946, c'est sa fille qui reprend les rênes.
Marguerite,
voilà. Qui n'a pas, on va dire, la poigne, la vision que pouvait avoir sa mère. Donc la maison perd un petit peu de son lustre. Hein. L'après-guerre, c'est la grande période de Dior avec le New Look. Lanvin est un petit peu plus en retrait. Et voilà. Et ensuite, la maison, donc Marguerite, n'ayant pas les compétences pour tenir et développer la maison, elle va être vendue, rachetée par plusieurs actionnaires, notamment L'Oréal, après des Taïwanais. Mais la maison a changé de main plusieurs fois, mais ça reste un des emblèmes de la mode et du luxe français.
Et oui, Sylvain, bien que la maison Lanvin soit moins réputée actuellement qu'il y a un siècle dans le monde de la mode, il faut retenir que cette société, créée à force d'efforts et d'obstination par Jeanne, est encore un emblème, tu l'as dit, mondial du luxe parisien et elle a encore en vie. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Alors je rappelle que cette histoire, elle est tirée du tout nouveau tome de ta série de livres qui se nomme Entrepreneuse de légende. Il y a plein de portraits dedans, Sylvain.
Oui, une quinzaine à peu près.
Une quinzaine de portraits d'entrepreneuses qui sont tous passionnants et qu'on va sûrement traiter dans des prochains épisodes d'Entrepreneurs de légende.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce livre, il est disponible aux éditions Henrik B. N'hésitez pas à aller l'acheter, que ce soit en ligne ou en boutique. Vous pouvez réécouter tous les épisodes, évidemment, sur toutes les bonnes plateformes audio. On en profite avec Sylvain pour vous remercier beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous aimer. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager, ça nous fera du bien. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi aller nous écouter sur CDI Podcast. On vous dit à bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.